Bonsoir. La bibliothèque est très heureuse d'accueillir David Christoffel, qui a conçu ce cycle de conférences musicales consacré à l'objet de la musique, donc à la manière dont les objets façonnent la discipline des musiciens. Avant de lui laisser la parole, je voulais simplement vous rappeler les dates des deux autres conférences de ce cycle. Donc la prochaine séance aura lieu dans 15 jours, le 2 février. David Christoffel il parlera de petits instruments de torture inventés pour muscler les doigts des apprentis pianistes. Il sera accompagné par Nicolas Horvath au piano. Et la troisième et dernière séance se tiendra le 16 février. Il y sera question de métronome et de baguette, de mesure et de démesure. Bonne soirée à tous.
Bonsoir, merci à la bibliothèque de cette invitation qui est effectivement l'occasion de parler de musique, comme l'on dit, de grand répertoire de musique classique, sans forcément sacrifier à l'espèce de tradition qui consiste à toujours parler de la vie des compositeurs ou même des instruments de musique. Mais là, il sera question de ces objets qui ne sont même pas des instruments de musique. Le diapason aujourd'hui, ces espèces de petits instruments de musculation de pianiste et puis le métronome ou la baguette qui, en définitive, ont quand même pour point commun d'être des objets qui disciplinent la pratique musicale et qui viennent lui donner une forme de régulation. Alors, aujourd'hui, donc, on parle du diapason. Si on doit le rendre à sa signification grecque, étymologique, le mot diapason est tiré de l'expression diapason cordon symphonia, toutes les cordes, toutes les notes de l'octave. Et c'est encore le sens qu'on trouve du mot diapason qui s'est maintenu dans les langues latines et françaises par les théoriciens du Moyen-Âge. Jusqu'en 1610, par exemple, dans les écrits de Pierre Maillard, on trouve le mot diapason employé dans le sens du mot octave. Et dans ce sens que dans des œuvres de musique sacrée, il est assez fréquent d'entendre les choristes femmes qui chantent la même ligne vocale que les choristes hommes, mais exactement à l'octave supérieure. Et on va alors dire qu'elles sont au diapason, alors qu'elles ont un écart d'un octave. Donc en fait, le mot diapason, dans ce cas-là, veut dire octave. Et alors, à l'âge classique, au XVIIe et XVIIIe siècle, on va trouver au moins trois acceptions du mot diapason qui vont cohabiter. On a d'abord le mot utilisé pour désigner l'ambitus de la voix. On va dire, par exemple, de tel chanteur qu'il a un diapason qui va de telle note grave à telle note aiguë. On a une occurrence même très précise de Louis-Joseph Francoeur, qui était violoniste, compositeur et administrateur de l'opéra, et qui, en 1772, publie un diapason général de tous les instruments dans lequel il emploie donc le terme diapason comme synonyme de registre ou de tessiture, dans le sens donc de toutes les notes couvertes par un instrument, avec déjà un esprit de normalisation qui va obséder toutes les polémiques ensuite qui vont courir, que je vais décrire aujourd'hui, sur le compte du diapason au XIXe siècle. Et puis, il y a aussi le mot diapason employé dans un sens qui est quasi extra-musical, au sens de l'accord. Avant même qu'on puisse définir l'accord en termes physiques, en termes de fréquence, on utilise déjà le mot diapason pour évoquer l'accord au sens d'une empathie entre deux personnes, c'est-à-dire être au diapason. Alors par exemple, dans les années 1690, dans Le Bal de Jean-François Regnard, à la scène 9, le maître de musique, Merlin, dit à Lisette: « Dans un concert d'hymen, lorsque quelqu'un discorde, je vais juste baisser ou hausser une corde. Nul ne sait de l'amour mieux le diapason, ni mettre comme moi deux cœurs à l'unisson. » Et si comme ça l'occurrence joue d'un diapason musical comme métaphore d'une justesse dans les sentiments entre deux personnes, c'est juste avant 1690 que ne soit inventé le diapason tel qu'on le voit ici, à savoir un instrument à deux branches en forme de U, qui est inventé en 1711. Alors, instrument à deux branches en forme de U, c'est la définition que l'on trouve du mot diapason dans le Dictionnaire universel de la langue française de Pierre-Claude Victor Boist, donc au début du XIXe siècle, ce qui, pour autant, cet instrument de 1711 n'a pas aboli l'utilisation du mot diapason au sens sentimental. On a par exemple cette chanson de Sylvie Vartan, « L'amour au diapason ». « Oui, moi, quand j'ai trop chaud, toi, tu as trop froid. Et puis, quand je dis oui, toi, tu dis non à chaque fois. Toi, tu dors le jour et la nuit, tu sors. Je suis désolé, mais moi, c'est la nuit que je dors. Et quand je crois en tout, tu ne crois en rien. On est chacun d'un côté sur le même chemin. Il vaudrait mieux accorder nos violons, chanter la même chanson et nous mettre au diapason. » Donc l'instrument à deux branches que l'on appelle diapason est inventé, je le disais, en 1711 par l'anglais John Shore, qui était trompettiste pour le roi George Ier, soliste de Purcell et Handel. Il invente ce petit instrument sur le modèle donc d'une fourchette d'acier, et lui en anglais l'appelle le pitchfork, et en français on va utiliser le mot bien ancien de diapason pour désigner cet instrument dédié effectivement à donner une seule note sans variation de hauteur. Le diapason va comme ça être à une espèce d'origine de révolution dans l'histoire de l'acoustique, puisque à partir du moment où on a cet objet qui va grâce devenir un étalon, on va effectivement pouvoir mettre un petit stylet au diapason, et en associant sa vibration au déroulement à vitesse constante d'un papier, on a pu voir le son, c'est-à-dire tracer des courbes qui mesurent à la fois la fréquence et l'amplitude. Ce qui constitue en fait le diapason comme le premier oscillographe qui permet de mesurer la fréquence du son en cycles par seconde, même si l'unité de mesure qu'on appelle le hertz, pour désigner les fréquences de vibration du son par seconde. Cette unité de mesure est plus récente puisqu'elle vient de l'ingénieur et physicien allemand Heinrich Hertz, qui réalise son premier oscillateur en 1887, qui lui permet... J'ai un retard sur le... un oscillateur donc de 1887 qui lui permet de découvrir les ondes électromagnétiques dans l'air en 1888 et qu'on appelle ensuite les ondes hertziennes. Alors Heinrich Hertz lui est mort assez jeune, à l'âge de 36 ans en 1894, le 1er janvier, mais ses travaux ont quand même permis au physicien italien Guglielmo Marconi en 1895 d'améliorer le télégramme, de fabriquer le premier télégraphe sans fil, et à partir duquel on a pu faire le téléphone, la radio et en définitive la majorité des télétransmissions mission sans fil. Autrement dit, on pourrait dire que d'une certaine façon, le téléphone portable a été rendu possible par le diapason. Et d'ailleurs, le téléphone fixe se donne la vocation de remplacer le diapason. J'ai un petit problème de synchronie entre l'ordinateur et ce qui s'affiche. Voici un téléphone. Les téléphones fixes donc se donnent la vocation de remplacer le diapason, au sens où le diapason a failli disparaître, se trouver remplacé par le téléphone fixe qui donne la tonalité d'invitation à numéroter qui a justement été fixée à 440 Hz, soit le La 3, le La hauteur 3 qui est défini par le diapason. Cela dit, non seulement la tonalité d'invitation n'est pas partout un La 3, en Belgique c'est pas 440 mais 450 Hz, à Singapour, cette tonalité d'invitation à numéroter est à 270 Hz. Aux Pays-Bas, on a une combinaison de deux fréquences, 150 et 450 en même temps. Et la 3 n'est donc de toute façon même pas lui-même toujours à 440, même en musique. Il reste qu'une fois effectivement que l'objet permet comme ça de donner un sens littéral au mot diapason, qui donc après l'ambitus et l'accord entre deux personnes à l'unisson est déjà une troisième acception, il permet aussi de créer d'autres sens figurés, puisqu'en disant qu'on va ensuite appeler diapason non plus seulement l'objet mais la hauteur de la fréquence qu'il donne pour fondamental, c'est une acception qui a déjà cours au moment où l'objet est inventé, puisqu'on trouve dans le dictionnaire de Furtière, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, donc juste avant l'invention de l'objet, on trouve la définition du diapason comme hauteur relative d'un son dans une échelle sonore. Et c'est même assez beau, finalement, comme une fois qu'on a un sens général et un objet, à savoir lequel vient incarner l'autre, puisque dans le Trésor de la langue française, on trouve comme première définition du diapason le son de fréquence donné servant de référence, avec l'idée que c'est un son qui devient référentiel, et qui est l'acception du mot diapason dans l'expression « se mettre au diapason », et qui est aussi le sens qu'on donne au diapason dans le titre de la conférence. Mais si on dit que c'est la définition principale, on en arrive à dire que c'est par métonymie que le mot diapason désigne aussi l'objet inventé par Shore. Et d'ailleurs, même si c'est plus rare, il arrive qu'on puisse utiliser le mot diapason pour d'autres instruments que celui à deux branches en forme de U. Par exemple, le Trésor de la langue française cite l'intermezzo de Giraudoux de 1933, où acte de scène 5, on a la phrase « Le droguiste souffle dans son diapason », qui dit bien que le diapason a pu désigner un petit instrument avant du type de l'harmonica, qui portait bien le nom de diapason dans la mesure où il donnait une hauteur qui devait s'entendre comme référentiel. Alors en plus de toutes ces significations, il y a encore une dernière acception qui est celle donnée par les facteurs d'orgue, qui avant l'invention de Shore emploient le mot diapason pour désigner le rapport entre la longueur et le diamètre du tuyau. Donc je voulais vous montrer. Voilà. Ce schéma qui est donc extrait de l'encyclopédie méthodique ou par ordre de matière, voilà, on a un ordre des grandeurs par note entre un rapport longueur-diamètre du tuyau. Autrement dit, comme il n'est pas construit pour accompagner d'autres instruments et comme il n'a pas à s'accorder avec d'autres et comme un bon nombre sont construits avant l'invention de l'objet diapason, eh bien chaque orgue va avoir sa hauteur de référence pour le la. Alors selon les mesures de 1713, on sait que l'orgue de Notre-Dame de Paris avait un la qui était à 405 vibrations par seconde. Alors que les orgues de la cathédrale de Strasbourg donnaient un la à 392. Et un la à 392, c'est l'équivalent d'un sol pour un instrument qui a son la à 440. Alors il faut faire quand même attention quand on traduit des hertz en notes, c'est que les intervalles musicaux sont bien des rapports entre les hauteurs. C'est une affaire qui nous vient de la gamme pythagoricienne qui entendait définir les rapports entre les hauteurs par des proportions. Donc si vous avez une note, un nombre de vibrations par seconde, que vous calculez les 4 tiers, vous obtenez sa quarte pure. Si vous calculez les 3 demi, vous obtenez sa quinte pure. Et si vous le doublez, vous obtenez la note à l'octave au-dessus. Donc si on a un diapason qui fixe le la à 440 Hz, comme le la est exactement donc 4 tiers au-dessus de la note qui est une quarte en dessous, le mi sera l'inverse de 4 tiers, c'est-à-dire le triple du quart de 440, à savoir 330 Hz. Alors on ne va pas forcément insister sur les calculs, mais on doit bien entendre cette idée que les intervalles sont des rapports harmoniques, c'est-à-dire que le nombre de hertz qui sépare deux tons, qui sépare par exemple un sol et un la, dépend de la hauteur de ces tons. Et dans la mesure où le rapport d'octave est justement un rapport du simple au double, eh bien, par exemple quand on a le la à 440, le la de l'octave inférieure est à 220 et le la de l'octave supérieure à 880. Ce qui veut dire aussi que plus on va dans l'aigu, plus il faut de hertz pour faire seulement un ton. Sachant que dans ce concours donc, des orgues et des diapasons d'orgue, les plus brillants au monde, le plus aigu, est installé en 1495 dans la cathédrale de Halberstadt, dont l'orgue a un la à 506, c'est-à-dire encore un peu plus aigu qu'un si sur un instrument dont le la serait à 440 et dont le si serait donc à 495. Alors je fais une parenthèse sur la ville d'Halberstadt, qui est une ville de tous les records organistiques, parce que en plus de l'orgue le plus aigu du monde, on y trouve aussi l'orgue le plus lent à cause du compositeur américain John Cage qui a écrit une œuvre pour orgue qui s'appelle ASLSP, ça veut dire As Slow As Possible, c'est-à-dire aussi lentement que possible. C'est une œuvre qu'il a composée dans les années 80 pour laquelle il n'a pas voulu donner de chiffres de tempo, si bien qu'on n'a pas de représentation pour le coup numérique de la longueur que l'œuvre pourrait avoir. Alors l'œuvre est de 1987, c'est une adaptation d'une œuvre pour orgue dont l'exécution durait en fait entre 20 et 70 minutes.
Et alors, cette imprécision d'une indication qui devait repousser les limites des formats de concert tenaillait tellement les chercheurs qu'après la mort de John Cage en 1992, on a carrément organisé une conférence de musiciens et de philosophes pour débattre des implications de l'instruction de Cage de jouer l'œuvre le plus lentement possible, dans la mesure où un orgue n'impose virtuellement, finalement, aucune limite de temps. Et donc, en 1997, on a décidé, fait le projet, que l'œuvre pourrait durer, pourquoi pas, 639 ans. Alors, il y avait des raisons précises au 639, c'est que l'église Saint-Buchardi à Halberstadt avait été choisie parce que, effectivement, son premier orgue datait de 1361, soit 639 ans avant l'an 2000, et donc l'idée était de lancer l'œuvre en 2000 pour qu'elle dure jusqu'à la fin des années 2630. Alors ça change effectivement beaucoup la pratique de l'écoute que d'avoir une œuvre aussi lente, tellement lente que le public ne se réunit que quand il y a un changement de note. Alors voici un extrait d'un, je crois que c'est le 11e changement de note, il y a quelques mois. Ça change aussi un peu le rapport à la virtuosité, puisque pour pouvoir changer une note, il faut, semble-t-il, pas forcément être organiste, mais au moins notable de la ville d'Halberstadt. Pour en revenir à notre histoire de diapason, du milieu du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, on s'est en fait inquiété de son inflation. Puisque derrière la polysémie, que j'ai un peu détaillée du mot diapason, il y a tout de même la notion de cette valeur de référence sur laquelle les musiciens peuvent s'accorder. On commence à comprendre qu'avec cet objet en U est apparue l'idée qu'une seule et même fréquence pourrait devenir une sorte de norme universelle. Alors en 1926, on a une musicologue, mademoiselle Marie Bobillier, qui signait ses œuvres musicologiques sous le pseudonyme masculin de Michel Brenet, qui avait fait un dictionnaire pratique et historique de la musique, qui faisait une histoire de la controverse qui était d'abord une controverse géographique. Si on repart de l'Italie du XVIIIe siècle, on s'en remet à l'un des seuls écrits dont on dispose pour avoir quelques éléments concrets sur l'art vocal en Italie à ce moment-là, qui sont les opinions des chanteurs anciens et modernes ou observateurs sur le chant figuré qu'avait rédigé le chanteur bolognais Pier Francesco Tosi en 1723, opinion des chanteurs anciens dans lesquelles il recommande aux maîtres de chant de faire étudier leurs élèves d'après le ton de Lombardie et non d'après celui de Rome pour leur faire acquérir des notes aiguës et leur éviter tout embarras lorsqu'ils se trouvaient accompagnés par des instruments élevés. Et un demi-siècle plus tard, l'écart entre ces deux diapasons, celui de Lombardie et celui de Rome, était si important qu'il devait représenter l'équivalent d'une tierce mineure, c'est-à-dire que le ré de Lombardie valait un fa de Rome. Donc le ton de Lombardie amorçait au XVIIIe siècle une espèce de tendance générale à l'élévation du diapason. Mais on doit quand même souligner que le chanteur appelle lui-même à monter le ton en référence aux instruments élevés. Et s'il y a des instruments de plus en plus élevés, c'est parce qu'il y a une famille d'instruments qui prend de plus en plus d'importance au XVIIIe siècle, qui sont les instruments à vent, auxquels précisément les sonorités aiguës donnent plus de netteté et d'éclat. Et il semble que Pierre Francesco Tosi n'ait pourtant pas un progressiste qui se laisse fasciner par tout ce qui est nouveau en matière de mode musical. Au contraire, s'il remet sur la table les opinions des chanteurs anciens, c'est parce que lui plaide pour un retour au style pathétique. Il dénonce la vanité de la virtuosité sans expression, sans fonction expressive, ou s'en prend donc à la mode qui consiste alors à arrêter un orchestre entier au milieu du mouvement réglé des airs, écrit-il, pour attendre leur ridicule arbitrio, ce que souvent ils ont appris par cœur pour les colporter d'un théâtre à l'autre. Alors cette histoire de ridicule arbitrio, de petits feux d'artifice vocaux tellement artificiels qu'ils ont besoin d'arrêter la musique pour pouvoir briller, sont colportés par ceux qu'on accuse d'être de grands détracteurs de Diapason, que sont les castrats, dont le répertoire est aujourd'hui mis au goût du jour par des contre-ténors tels que Max et Emmanuel Chinchik ou Philippe Jarouski. Ce sont donc bien, en fait, des enjeux de virtuosité, de brillance, qui vont comme ça tirer le diapason vers le haut. Et même si les chanteurs font référence aux instruments pour s'expliquer cette montée, ils sont tout de même partie prenante, en même temps que victime potentielle, comme en témoigne le journal d'un critique d'art français en 1824, Étienne Jean de l'Écluse, qui s'inquiète en écrivant « Si, dans 50 ans d'ici, on remonte encore le diapason de trois autres quarts de ton et que, d'après le conseil fort sage que donne le musicien dont je viens de citer la vie, on écrive les parties vocales entre les deux notes extrêmes qui forment le diapason forcé des chanteurs, n'y aura-t-il pas incohérence sensible pour l'oreille entre le chant et l'accompagnement ?» Le fait est que la montée progressive du diapason soit concomitante comme ça d'un devenir instrumental de la musique n'est pas du tout anecdotique, puisqu'il y a même un phénomène physique à ça, c'est que un instrument à vent, à force de recevoir de l'air de l'instrumentiste, chauffe, et plus il chauffe, plus il monte, et en plus de l'instrumentiste, il y a la chaleur de la salle. Et on a des données très chiffrées là-dessus. Un la, par exemple, de 435 Hz à 15 degrés va passer à 442,6 à 30 degrés et à 454,1 à 40 degrés, ce qui n'est pas loin d'un demi-ton d'écart, puisqu'avec un la à 435, le si bémol, la note qui lui est chromatiquement supérieure, est à 461. Et quand donc, au début des années 1860, Hector Berlioz écrit « L'élévation progressive du diapason est une cause de ruine pour les plus belles voix », en fait, il évoque bien le diapason d'une hauteur de référence qui, au fil des générations, serait de plus en plus haute. Sachant qu'au début des années 1860, le débat est déjà à un certain stade de réglementation. Je vais y venir. Ce qu'on appelle le diapason Mozart, donc le diapason de la deuxième partie du XVIIIe siècle, était à 422. Berlioz lui-même plaidait pour un diapason à 435, pendant qu'on était déjà à Vienne à 456, que les pianos Steinway américains étaient accordés à 457 et que notre orgue de la cathédrale de Halberstadt de 1495 continuait à émettre le la le plus aigu du monde à 506 Hz, avant même l'invention de l'objet diapason. Donc le fait que le la de référence varie comme ça selon les pays et les époques va poser problème au début de ce qui serait une mondialisation de la musique peut-être au XIXe siècle. Alors je disais 1711, l'invention du diapason, ça veut dire qu'en 2011 on a célébré le tricentenaire de l'invention de John Shore, et à l'occasion du tricentenaire du diapason, un chercheur, Emmanuel Hervé, a publié dans la revue française d'organologie une reconstitution des problèmes de diapason qu'on a pu avoir spécifiquement à Paris au XIXe siècle, puisqu'au début du siècle, on avait pas moins de 6 diapasons différents utilisés à Paris d'une institution à l'autre, entre l'Académie de musique, l'Opéra comique, le Théâtre italien, celui du Conservatoire, de la Chapelle et celui des musiques militaires. Et comme partout où chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui veulent mettre un peu d'ordre dans tout ça, et bien à l'heure de la flûte enchantée de Mozart jouée pour la première fois à Paris, donc en 1801, Joseph Bonnet, qui était le directeur de l'Académie de musique, donc bientôt l'Opéra, commence à s'inquiéter des difficultés des chanteurs pour atteindre les notes les plus hautes et annonce qu'il veut un nouveau diapason un quart de ton plus bas. Et comme c'était le genre à pas se laisser faire, il va commander un rapport au chef d'orchestre Jean-Baptiste Rey pour détailler les changements à effectuer sur les instruments avant de l'orchestre de l'opéra et pour éviter qu'il monte. Et les choses se sont à ce point formalisées qu'en 1821, dans le règlement de l'orchestre de l'opéra, on a mis un article, le numéro 247, qui précisait, je cite, que si un musicien s'était permis de faire couper quelqu'un de ses instruments de manière qu'il ne fût plus au diapason de l'orchestre, mais donc coupé, donc un peu plus petit, donc un peu plus haut, les chefs d'orchestre en feraient leur rapport au directeur, lequel ferait établir un nouvel instrument aux frais du délinquant. Alors qu'on en vienne mettre une notion de délinquance pour un acte d'altération d'un instrument à finalité de virtuosité, ça pourrait paraître excessif. Et d'autant plus qu'il ne semble y avoir dans cet article 247 aucune espèce de second degré dans l'emploi du mot délinquant. Alors j'ai cherché un peu à savoir quel était l'emploi du mot délinquant à l'époque. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que Chateaubriand évoque, juste dans ces années-là, une loi qui ne cherche dans le délinquant que l'objet pour lequel il a délinqué, ce qui donne une idée quand même de la charge que devait avoir le mot délinquant en tant que participe présent, adjectivé, substantivé d'un verbe délinquer qui, avant d'être tombé en désuétude, semblait quand même connoter aucune sorte de complaisance à l'égard des auteurs d'infractions qui venaient à accuser. Alors, tout cela pour dire que la hausse de ton commençait à prendre une tournure délictueuse et qu'une logique de pénalisation commençait à avoir cours pendant qu'on commençait en même temps à se plaindre avec Delescluze, explicitement en 1824, de ce qu'au-delà de la diversité des diapasons, la montée générale de la hauteur de référence pouvait présenter comme problème, notamment pour les chanteurs qui n'arrivaient plus à suivre. Alors pour les chanteurs, mais pas seulement, il y a aussi le problème pour les accordeurs de piano. Et à l'occasion du tricentenaire du diapason, Emmanuel Hervé donc, cite un ouvrage de Claude Montal qui était paru en 1836, qui s'intitulait « L'art d'accorder soi-même son piano », pour qui, effectivement, Claude Montal, il fallait plusieurs diapasons, il fallait bien s'adapter quand on était facteur de piano. Claude Montal préconisait trois diapasons différents en usage, celui de l'opéra, celui des Italiens et celui de Feydeau. Celui de l'opéra, selon Claude Montal, était le plus bas des trois. Il donnait vers 1829 434 vibrations à la seconde. Celui des Italiens de la même époque, un peu plus élevé, en donnait 435. Et celui de Feydeau, le plus haut des trois, 438. Et alors, en note, Claude Montal souligne qu'il serait quand même nécessaire de peut-être créer une commission pour fixer une bonne fois pour toutes la hauteur du diapason. Il écrit « Aussi croyons-nous qu'il serait du plus haut intérêt pour l'art qu'un diapason modèle, fixe, invariable, épuisé dans les lois de la nature, fût déterminé par une commission de l'Institut composée de physiciens et de musiciens ». Alors là, on a effectivement l'occasion de revenir sur cette revendication d'une référence à la nature. On peut déjà relever que l'appel aux physiciens est littéralement pharmaceutique, puisque il faut recourir aux physiciens pour en fait diagnostiquer ces différentes hauteurs aussi précisément que ça, mais il faut aussi avoir recours à eux pour fixer la bonne hauteur qui, pour nécessaire qu'elle paraisse à Claude Montal, semble lui rester incertaine. Et là où il y a une sorte de biais, c'est que les physiciens donnent à ce moment-là aux musiciens une sorte d'espoir d'objectivité dans la définition d'une hauteur absolue, mais ne sont pas forcément objectifs dans la variété des hauteurs qu'ils peuvent mesurer, puisque à l'époque de Claude Montal, à l'époque où il écrit son art d'accorder soi-même son piano, il dispose déjà de mesures précises, mais en fait discordantes, puisque Jacques Chaillet montre que, par exemple, Deleuzen, en 1833, mesure le « la » à 441 à Paris, quand un autre physicien allemand, Scheibler, l'année suivante le mesurait aussi à l'Opéra de Paris à 434. Sinon, qu'au fond, donc, qu'un orchestre ne soit pas tout à fait réglé à la même hauteur qu'un autre, ce n'est peut-être pas encore si grave. Alors pour effectivement voir en quoi ça peut devenir un problème, on peut regarder comment aujourd'hui on argumente le problème des différences de diapason dans la discographie. Alors on a pour ça l'ouvrage de Gérard Zwang de 1998 qui s'intitule Le diapason et qui fait une sorte de liste d'interprétations. Il prend l'exemple d'une même œuvre de Mendelssohn, la 4e symphonie en la majeure, dite italienne, pour dire qu'on en trouve au moins trois versions à trois hauteurs différentes. La version de l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Nicolas Arnoncourt, qui a un diapason à 440, la version de l'Orchestre des Champs-Élysées, dirigé par Philippe Hervègue, dont le diapason est à 430, et on trouve même la version de l'Orchestre du XVIIIe siècle, dirigé par Franz Brüggen, dont le diapason est à 415. Alors, pour vous donner un référent sonore de ce que ça peut faire, on va écouter les deux plus extrêmes. Donc, un court extrait du tout début de cette 4e symphonie en la majeure dans la version d'Arnoncourt, puis donc à 440, puis dans la version de Brüggen à 415. En fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a une faute. C'est donc pas 432, mais là, c'était à 415. Et le précédent était avec un la de référence à 440. Alors, on va faire un petit sondage. Qui a préféré la première ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, qui a préféré la deuxième ? 2, 3, 4. Ah oui. Ouais, c'est pas si c'est assez massif pour le 440. Alors l'argument de Gérard Zweig, qui lui est un militant du 440, c'est de dire qu'il y a une espèce d'anachronisme, puisque le choix du 415 par Franz Brüggen et l'orchestre du XVIIIe siècle, c'est de jouer sur des instruments du XVIIIe siècle, donc au diapason du début du XVIIIe siècle, donc à 415. L'argument de Gérard Zweig, c'est de dire que pour jouer un compositeur Mendelssohn né en 1809, de le jouer avec un diapason à 415, qui serait typiquement le diapason baroque, et donc anachronique. Mais dans le même esprit, on pourrait dire que la version Harnoncourt, qui est elle-même anachronique, puisque 440 pour le 19e siècle, est beaucoup. Donc l'argument qu'on peut toujours contrer en disant que 440 étant le diapason majoritaire aujourd'hui, il y a toujours une cohérence à jouer dans un diapason majoritaire, une partition qui, à son époque, était jouée dans le diapason de son époque. Alors avant de compter ces diapasons en Hertz, puisque je vous ai dit que Hertz était de la fin du 19e siècle, et je vous donne quand même des chiffres 415, 392, 440 antérieurs à Hertz. En fait, on donnait déjà quelques valeurs numériques, on comptait déjà les vibrations des corps sonores avec une technique établie par Huygens qui date de 1673. Il y en avait une autre de Joseph Sauveur et puis une plus tardive de Sarti en 1780. Donc on a toujours, même avant l'existence de l'objet diapason, compté les vibrations des corps par seconde, ce qui veut dire qu'on dispose en fait de relever des hauteurs du la de référence, un peu comme on dispose de relever de température. C'est comme ça que certains ouvrages proposent des listes chronologiques qui montrent qu'il y a une sorte de réchauffement harmonique, une montée du diapason avec un diapason de référence à Paris qui serait passé donc de 404 en 1680 à 410 en 1774, puis de 420 en 1807 à 430 en 1829 et 435 en 1859. Alors de même qu'on trouve dès les années 1770 une conscience du rapport entre la déforestation et la possibilité de changement climatique, eh bien on dispose de certaines alertes dès le début du 19e siècle sur la nécessité que ce haussement du ton pourrait engendrer de venir à l'arrêter par une sorte de régulation définitive. Et on peut s'interroger sur les raisons du sentiment, ou en tout cas le contexte esthétique dans lequel on a voulu stopper cette montée du la de référence, et on pourrait même se demander si on ne veut pas un la fixe, immuable, unique, à mesure qu'on progresse dans le siècle du positivisme, plutôt que parce qu'on souffre véritablement pour les chanteurs qui voient le point culminant de leur tessiture abaissée, d'autant que la hauteur de référence se trouve, elle, rehaussée. Alors c'est une question à laquelle on a déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse, mais qui mérite d'être approfondie par d'autres dimensions. C'est aussi parce que les musiciens doivent pouvoir circuler d'un orchestre à l'autre. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement problématique d'avoir des diapasons aussi différents à travers les orchestres de Paris. Et l'un des compositeurs spécialement militants d'un diapason unique est Hector Berlioz, qui a le double enjeu effectivement d'écrire des partitions qui réunissent un nombre de musiciens tel qu'il faut réunir plusieurs orchestres et donc avoir un diapason unique, et d'autre part qui a une vocation d'exportation de sa musique qui suppose que les musiciens puissent voyager et s'interchanger avec des orchestres d'autres régions sans avoir des problèmes de réglage de diapason à l'arrivée. Et c'est comme ça que Berlioz va participer à l'élaboration d'une commission en 1859, commission qui se donne pour mission de fixer le diapason une bonne fois pour toutes à la bonne hauteur. Alors là, c'est Emmanuel Hervé qui a documenté ça. La commission de 1859 réunit différents diapasons à travers l'Europe. Donc là, vous avez un diapason de Bordeaux qui a le la à 445. Un diapason de Bruxelles dont le la est à 455, à Marseille le la est à 447, À Prague, il est à 450, du moins ce diapason-là, on peut imaginer. Le conservatoire de Toulouse avait un la apparemment à 440,5, ce qui est paradoxal. Turin à 445, Leipzig à 449. Et là, il y en a deux pour Londres. Et en plus d'en avoir deux à hauteurs différentes, ce n'est pas des diapasons qui donnent le la, mais vous voyez des diapasons qui donnent le do. Le premier donne lutte dont, du la à 442 et l'autre lutte du la à 450. Alors, l'instauration d'un nouveau diapason fixé une bonne fois pour toutes, alors je vous donne la solution, il a été fixé à 435 en 1859 par Berlioz et ses amis et donc cette commission, un diapason normal, avec quelque chose de folklorique, puisqu'on a été jusqu'à conditionner une cloche fondue et installée en 1860 au Conservatoire de Paris, qui était directement actionnée par une horloge toutes les demi-heures et qui donnait un la à 870. Alors 870, c'est exactement le double de 435, donc c'était le la au-dessus du la de référence choisi par cette commission. Et quelques jours après la commission et après l'arrêté, puisque ça avait fait l'objet d'un arrêté du 16 février 1859, qui a institué donc le diapason uniforme pour tous les établissements de musique de France, Cavalier Cole, le facteur d'orgue, avait écrit dans l'Ami de la religion, le 5 mars 1859, un article sur le diapason officiel, puisqu'il lui-même devait s'y conformer, puisqu'il était en train de faire l'orgue de Saint-Sulpice, qui a dû donc être le premier orgue réglé à la hauteur réglementée du diapason. C'est-à-dire que quand je vous faisais la liste des hauteurs du diapason à travers l'histoire, quand on arrive à 435 en 1859, ce n'est plus une hauteur constatée, mais pour la première fois, une hauteur décrétée. Au point que Jacques Chaillet, le musicologue, dans « La musique et le signe » qui publie en 1967, fait un chapitre sous le titre « Le diapason, une invention de 1859 ». Ce qui voulait dire qu'en tant que le diapason, l'outil inventé par John Shore en 1711, est presque une anecdote à côté de l'institution qu'est la commission 1859, qui une bonne fois pour toutes fixe donc le diapason à 435. Alors vous avez compris que ce n'était pas tout à fait une bonne fois pour toutes, puisqu'on l'a aujourd'hui réglementairement à 440. Il n'empêche que ça a été suffisamment important pour qu'on note que le Faust de Gounod, justement créé en 1859, a dû être un des premiers ouvrages à bénéficier de cette baisse du la, donc Jingle Gounod. Donc à force de vouloir fixer comme ça, universaliser presque une hauteur plus absolue que les autres, on en a fait une norme. Et d'ailleurs, il y a un musicologue, Vincent Lajoigny, qui s'en moque à ce titre, puisque si c'est une norme alors qu'elle est évolutive, c'est donc qu'elle est peut-être très utile, mais tout de même arbitraire et donc un peu ridicule quand elle est imposée de façon sévère. Et dans son livre « Le basson n'est pas contagieux », Vincent Lajoigny écrit « Théoriquement située autour de 440 Hz, la fréquence du diapason est en réalité hypothétique. À l'instar d'autres célèbres instruments de référence, citons au hasard la boussole, le code d'Alose, la mire télévisée, l'épouse acariâtre, sa force de dissuasion est telle qu'elle se suffit pratiquement à elle-même, discrètement lovée dans un lointain repli cervical à peine connu des meilleurs obstétriciens. » Alors, en fait, cette référence à une hauteur absolue, elle est effectivement posée bien antérieurement à ce qu'elle devienne une norme officielle par les auteurs de traités de déclamation de l'époque baroque. Et notamment, l'un de ces traités les plus connus de Monteclerc proscrit le vibrato en référence à ce que la hauteur absolue, c'est-à-dire fixe, serait une hauteur plus nette dans le chant. Il écrit « Les ornements se pratiquent moins dans la musique vocale que dans l'instrumentale, surtout à présent que les joueurs d'instruments, pour imiter le goût des Italiens, défigure la noblesse des chants simples par des variations souvent ridicules. Et cette idée, effectivement, du vibrato comme dénaturant le diapason, ou d'une espèce de conflit entre diapason et vibrato, est reprise dans un autre écrit de Vincent Lajoigny, un autre écrit, on pourrait dire, de vulgarisation musicale à tendance parodique, qui s'intitule « Le ténor provoque des maladies graves », et il écrit « Déjà utopique pour les instrumentistes, cette unité, donc le diapason, ne saurait avoir aux yeux des chanteurs qu'une existence symbolique, voire mythologique. C'est d'ailleurs peu dire que le chanteur méprise le diapason. » Et il dit que le chanteur est aussi allergique au diapason que l'huître l'est au citron. En insistant sur la mauvaise foi congénitale qui caractérise le chanteur, il en a conçu la plus perverse des parades, qui est le vibrato. Alors le vibrato, on peut représenté de façon physique. Là, vous avez un sonogramme du chant d'un merle noir, Turdus merula. Et dans les représentations physiques que l'on peut se donner des phénomènes musicaux, on a aussi comme ça synthétisé la voix de Maria Callas dans un sonogramme original du son final de l'acte 2 de la Wali, qui est une voyelle très aiguë, et ça matérialise pour le coup sur une seule note, comme il peut y avoir une variation de hauteur, donc un vibrato. Sur ce, Florence Kierer, qui est orthophoniste, a publié récemment un article sur le vibrato pour justement mesurer, elle définit le vibrato comme variation de la hauteur. Et elle a constaté que le vibrato pouvait s'étendre en moyenne sur carrément un demi-ton. Et là, on peut effectivement dire combien ça fait en hertz, si on s'en réfère à un seul répertoire. Alors elle a pris l'air de la fin du premier acte de la Traviata, Sempre Libera. Elle a écouté le vibrato de Maria Callas, pour le coup, qui avait une amplitude de 4,5 hertz. Elle a comparé avec d'autres chanteuses. Raina Cabavancea avait un vibrato à 8 hertz. Et le record qu'elle a pu constater, c'est le vibrato de Johann Sunderland, qui a été calculé à 11 hertz. Et selon Florence Carrère, le bon vibrato doit s'étaler entre 5 et 7 Hz, parce qu'elle estime qu'à partir du moment où le vibrato s'écarte trop, il perd en homogénéité de timbre et donc en qualité vocale, et l'effet dramatique qu'il est censé donner s'en trouve donc corrompu. Alors c'est intéressant de passer par une sorte de médicalisation comme ça du phénomène vocal, puisque Gérard Zwang, dont je vous parlais, auteur du Diapason 1998, est lui-même chirurgien neurologue, militant de sexologie clinique, mais aussi militant intransigeant donc du Diapason A440, et il y a tout juste quelques semaines, il a publié un nouveau livre intitulé « La musique baroque et son diapason, le classique confisqué », et qui est en fait une sorte de pamphlet, en fait un livre à charge contre les défenseurs de la musique baroque, qu'il accuse, au nom de la défense des auteurs antérieurs à l'âge classique, de dérégler le beau consensus qui s'est cristallisé juste après la Seconde Guerre mondiale autour du diapason A440. Et pour que son point de vue soit entendu dans toute son épaisseur, il n'hésite pas à prendre quelques accents quasiment caricaturaux en s'en prenant à l'auteur suisse alémanique Heinrich Wölfflin, qui est auteur en 1888 d'un ouvrage qui a fait date dans l'histoire de l'art, qui était Renaissance et Baroque. Il a fait date notamment dans sa méthode, puisqu'il défendait l'idée qu'à toute période de création classique succède une période de baroque stylistique. Donc ça a été un des premiers à organiser des conférences où il mettait des diapositives d'œuvres pour qu'on puisse les comparer. Et cette idée qu'à toute période de création classique succède une période de baroque stylistique, cette idée est assez intolérable pour Zwang, du moins s'il s'en prend de façon tellement virulente à cette idée, c'est parce qu'il ne supporte pas en fait que l'on puisse, avec cette idée, arriver à prêter autant d'importance au baroque des 17e et 18e siècles qu'au romantisme, qu'à l'impressionnisme, qu'à l'expressionnisme ou même le surréalisme. Parce que à l'opération qui consisterait à donner au mot baroque une signification plus générale qu'historique, donc une définition qui dépasserait la référence à la seule période en gros de Bach à Beethoven, ou du même encore plus restreinte de 1650 à 1750, eh bien Zwang voudrait que ce soit en fait au bénéfice d'une acceptation surtout la plus dépréciative possible du mot baroque. Et pour ce faire, il prend l'article « Musique baroque » du supplément de 1776 de Jean-Jacques Rousseau dans l'Encyclopédie. Jean-Jacques Rousseau qui écrivait « Une musique baroque et celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et de dissonance, l'intonation difficile et le mouvement contraint. Donc on comprend vite le montage de Zwang. Tant qu'à s'en prendre à la musique baroque, il veut s'en prendre à toute forme de musique qui garde quelques traces de désordre dans sa confection. Et c'est comme ça qu'il généralise comme baroque, dans un même élan d'intolérance, on pourrait presque dire la Sinfonia de Berlioz, qu'il juge fourre-tout, la Klangfarben Melodie d'Anton Weber, ce qu'il appelle les Amusettes de John Cage, le dit bric-à-brac de Stockhausen, et pour commencer, la valse de l'opus 23 d'Arnold Schoenberg. Alors là, je me suis dit, on pourrait peut-être écouter un extrait de la valse opus 23 d'Arnold Schoenberg, mais ça commence à nous éloigner de notre question de auteur absolu. Et je me suis dit que ça pouvait être le bon moment de faire une sorte d'audio-test pour que vous puissiez trouver quelques repères dans le spectre sonore disponible aux oreilles humaines. Alors, effectivement, notre capacité d'audition va maximalement de 20 Hz à 20 000 Hz. Et plus on vieillit, plus on a tendance à perdre les fréquences aiguës. Donc on va écouter une séquence de 2 minutes et quelques qui progresse avec un son d'oscillateur donc pur, donc qui peut faire mal aux oreilles. Donc je vous préviens que vous pouvez vous boucher les oreilles pendant cette séquence, qui progresse de 20 Hz jusqu'à 20 000. Alors au passage, ça va faire audio-test, puisque plus vous entendrez longtemps, ça veut dire plus votre audition est en bon état, mais ça vous permettra surtout de repérer que les fréquences qui sont musicales, donc, dont on parle beaucoup là autour du 440, sont des fréquences relativement basses par rapport à tout le spectre qui nous est disponible.
On ne va pas faire de sondage qui est allé le plus loin. Avant de revenir sur les comptes et tout ce rapport un peu physique effectivement au son, je vais revenir quand même sur ce problème esthétique qui est posé par Gérard Zwang, parce qu'il prête une telle supériorité pour le coup au diapason à 440 et avec cette
ce diapason à la musique classique, donc de Bach à Beethoven selon lui, qu'il semble vouloir expert et défenseur de la musique la plus savamment structurée. Et dans son procès contre les dits baroqueux, alors il forme le mot d'authenticomanie et s'en prend justement à l'autre purisme, celui qui voudrait que la musique baroque se joue à 415, conformément à ce que par convention, entre défenseurs de musique baroque, on dit être la valeur de référence du XVIIIe siècle. Et c'est comme ça qu'il existe un ensemble qui se réserve au répertoire baroque, qui, en plus de jouer sur des instruments accordés à 415, s'appelle justement l'ensemble 415. Ce que juste une autre parenthèse, c'est qu'un autre ensemble de musique ancienne, l'ensemble 12 mémoires de Denis Rézindadre, pour apporter des pièces vocales en clé aiguë, évoque des fois des transpositions une carte en dessous en utilisant un diapason haut de la Renaissance, puisqu'on a des diapasons renaissants avec un la à 464. Donc tout ce qui est ancien n'est pas unitaire non plus en termes de diapason. Je voudrais maintenant vous sensibiliser à un phénomène que pratiquent certains chanteurs, c'est de ne même pas tout à fait chanter les notes qui sont sur les partitions, justement pour des besoins de confort vocal, au-delà même des questions de diapason. Alors, je vais prendre l'exemple de l'air des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. Les Pêcheurs de Perles, c'est un opéra composé en 1863, donc 4 ans après la commission qui fixe le diapason à 435. Et il y a un air très connu dans Les Pêcheurs de Perles qui s'appelle « Je crois entendre encore » que les ténors redoutent. Et comme ils le redoutent, ils ont pour habitude, bien souvent, de Enrico Caruso jusqu'à Roberto Alagna, de baisser la partition d'un ton et de la chanter dans une autre tonalité. C'est une partition en do majeur et donc ils l'interprètent en si bémol majeur. Voilà l'exemple de Caruso. C'est un extrait pour pouvoir vous faire entendre une autre version, celle d'un chanteur qui interprète ce « Je crois entendre encore » à la bonne tonalité, celle prévue par Bizet, donc en do majeur. Il s'agit du ténor Alain Venceau.
Oh.
Alors si on était pour la paix des ménages, on dirait que chacun prend la tonalité qu'il veut, qui lui est la plus confortable, puisqu'il y a un profit d'intensité dramatique à ce qu'il soit à l'aise. Après tout, il peut bien prendre la partition à la hauteur qui lui est la plus commode. Il y a quand même un problème, c'est que en l'interprétant un ton plus bas, donc en passant de do majeur, la tonalité devient si bémol mineur majeur, mais on peut associer des couleurs émotionnelles spécifiques à chacune des tonalités. Du moins quand on analyse les partitions des compositeurs romantiques allemands, les musicologues analytiques ont l'habitude de déduire certains caractères à partir de la tonalité choisie par le compositeur. On a l'exemple du poète allemand Schubert, que l'on connaît pour être l'auteur du texte de la truite de Schubert, donc Christian Friedrich Daniel Schubert, qui donnait au do majeur un caractère enfantin, naïf et pur, ce qui laisse entendre qu'en passant la partition de Bizet en si bémol, les ténors amputeraient ce passage des pêcheurs de perles de la naïveté et de la pureté que le compositeur avait voulu en choisissant cette tonalité. D'autant que dans ce qu'on appelle l'éthos des tonalités, on peut considérer que les tonalités bémolisées, comme le si bémol majeur, ont un caractère plus introverti, plus obscur justement que les autres. Alors, s'il y a ces enjeux esthétiques, on peut aussi faire porter sur ces questions de hauteur plus ou moins relative ou plus ou moins fixe des questions quasiment théologiques ou, pour commencer, civilisationnelles. Pour ça, je reviens en 1859 pour souligner la contribution d'un musicologue qui avait été exclu de la commission, qui s'appelait Adrien de Lafage, qui avait publié justement en 1859 un livre qui s'intitulait « De l'unité tonique et de la fixation d'un diapason universel » et qui, sur sa couverture, portait une citation de la Bible en exergue « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin ». La référence vient en fait du livre de Job, c'est en 38:11, et on peut lire dans la traduction de David Martin de 1744, donc « Tu viendras jusque-là, et tu ne passeras point plus avant, et ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes. » Ce qui laisse bien penser que, dans l'esprit d'Adrien de Lafage, qui était spécialiste par ailleurs de plein chant romain, il s'agissait par la fixation d'un diapason universel d'en finir avec une montée du la de référence qu'il assimilait à une forme d'orgueil. Et alors, après avoir écrit un certain nombre d'articles pour la Gazette musicale de Paris sur la question spécifique du diapason, Adrien de Lafage avait écrit au ministre pour participer à la commission qui devait statuer sur sa fixation, n'avait donc pas reçu de réponse, et il reconnaît lui-même que son érudition sur le sujet était devenue telle que sa présence aurait risqué d'encombrer le travail de la commission. De Lafage avait eu quand même le mérite de chercher des origines au débat, des origines assez éloignées pour envisager une époque absolument déterminante dans l'histoire de la hauteur des sons et pourtant indifférente à la question d'un ton fixe qui est l'époque des travaux de Pythagore, c'est-à-dire 500 ans avant l'ère vulgaire. Le mathématicien grec avait fixé les intervalles élémentaires produits dans le corps sonore, des rapports de hauteur tels que l'octave, la quinte et la quarte, sans chercher ce que les commissaires de 1859 appelle un diapason, c'est-à-dire un ton régulateur. Mais Adrien de Lafage s'en remet à des sources bien antérieures à la Grèce antique, aux annales des Chinois sous le règne de Hoangti, soit 2600 ans avant l'ère vulgaire, comme dit Adrien de Lafage, qui raconte que Hoangti, vainqueur de tous ses ennemis, je cite, ne songea qu'à rendre heureux les peuples soumis à sa domination et chercha dans l'invention et le développement des arts utiles et agréables un des plus purs moyens de contribuer à leur bonheur. Et l'enjeu était si beau qu'il fallait résorber les incertitudes qui couraient encore sur la bonne manière de faire de la musique, et pour les résorber, Hoangti a chargé son ministre Ling Lun de déterminer les règles de la musique, et Ling Lun a alors réglé toutes ses opérations sur un tube de bambou qui lui a servi de ton fondamental et de point de comparaison. Autrement dit, on a bien, effectivement, dans les racines de la musique chinoise, une notion de hauteur absolue. La question a ensuite dérivé historiquement. Dans les années 1830, déjà, on s'intéressait aux gammes extra-occidentales. Le musicologue François-Joseph Fétis a fait des recherches comme ça sur la musique arabe, des recherches qui s'étaient attirées des réactions assez violentes et politisé de la part d'Eugène Lecomte, qui, avant d'être député de Lyon et défenseur des idées conservatrices soutien du Second Empire, était l'un des détracteurs de la revue et gazette musicale de Paris que dirigeait François-Joseph Fétis. Et dans le numéro du 24 février 1839, Lecomte reconnaît à Fétis de nous apprendre, je cite, que la musique arabe procède par tiers de ton et en déduit d'office que ses principes sont d'une complication effrayante, qu'il y a 12 modes, d'où dérivent 84 gammes, dont chacune se divise en 13 circulations, que tout cela se trouve dans une même échelle de là en là, que les notes intermédiaires se présentent tour à tour dans un état d'altération qui résulte de la division de l'échelle par tiers de ton, à l'exception de la quarte supérieure ré, qui est juste et immobile comme les deux notes des extrémités. Et sur ce, on peut dire que Lecomte exagère la complexité du système harmonique de la musique arabe. On peut tout juste dire qu'il l'expose un peu abruptement et que le système du tempérament égal, exposé aussi abruptement, ne serait pas moins compliqué. Mais puisque donc la simplicité d'un système harmonique ne saurait pas être un critère viable de qualité esthétique des œuvres, il est encore à vérifier si ce n'est pas la traduction d'un système dans le vocable d'un autre qui vient le complexifier. Il se trouve que sur cette histoire de musique chinoise, l'historien Rémi Campos, dans son gros livre tout récent sur Fétis, a montré que le résumé philosophique de l'histoire de la musique de Fétis est lui-même très inspiré du mémoire sur la musique des Chinois de Joseph-Marie Amiot, qui datait de 1779, et qui était lui-même une réponse au mémoire sur la musique des anciens de l'abbé Roussier en 1770. Parce qu'il y avait dans les années 1770 une sorte de dispute littéralement théologique qui se jouait à travers donc, cette opposition entre le système chinois et les principes de l'harmonie pythagoricienne. Alors pour vous faire entendre le côté chinois, il se trouve que ce Joseph-Marie Amiot avait été missionnaire à Pékin et avait ramené une messe des jésuites de Pékin, dont je vous propose d'écouter un extrait. Alors, c'est un extrait qui est interprété par l'ensemble musique 1821, dirigé par Jean-Christophe Frisch, qui, sous l'étiquette Le Baroque Nomade, se donne effectivement la mission de collecter des partitions de l'époque baroque extra-occidentale et qui donc a produit cette messe des jésuites de Pékin de Joseph-Marie Amiot, qui avait fait ce mémoire sur la musique des Chinois et rapporté en Europe cette nouvelle que, effectivement, dans l'Antiquité chinoise, on avait une auteure absolue, alors qu'en définitive, en Europe, il aura fallu attendre la première commission de 1834, puis celle de 1859 pour en définir une dans un esprit de décret sans valeur mythologique. Alors pour revenir au rapport physique au son que cette espèce de compte des vibrations par seconde que produisent chaque auteur, et pour revenir un peu plus dans le contemporain de ces comptes-là, Nicole Scotto-DiCarlo, qui est directrice de recherche au CNRS, a obtenu du Conseil international de la langue française en 2002 d'homologuer le mot odologie, qui est tiré du grec odé, donc le chant, de l'étude du chant à partir de comptes, et c'est grâce à cette cette discipline odologique que l'on sait que la hauteur moyenne de la voix parlée se situe en moyenne entre 125 et 150 Hz pour un homme, entre 220 et 300 Hz pour une femme, entre 300 et 350 pour les enfants. Et là où la voix parlée se déploie donc sur des tessitures d'environ 3 octaves, la voix chantée, elle, s'étend davantage sur 5 octaves et on peut avoir une espèce de quantification des records vocaux. On sait qu'un contrute de ténor, dès lors que le la de référence est à 440, atteint 523 Hz, que le contrute des sopranos et le luth de l'octave supérieure, donc le double, donc 146 Hz. Et puis après, on peut calculer les voix qui ont été les plus hautes. Et on a le cas de Mado Robin qui figure comme un record avec un contre-contre-ré, un double ré sixième qui nous fait quelque chose de l'ordre de 2349 Hz. Mais tant qu'à être dans un maximalisme d'un côté, on peut aussi être dans un minimalisme de l'autre côté et savoir jusqu'où on peut réduire la sensibilité. Tout à l'heure, je m'étais trompé en mettant 432 au lieu de 415. Il se trouve que 432 a une histoire. 432, c'est le diapason Verdi. Et il y a une petite spécificité numérologique avec le 432. C'est qu'avec les comptes pythagoriciens, un La à 432 nous donne un Do à 256. Le Do plus grave à 128, le Do encore plus grave à 64, puis 32, 16, mais on est alors et même exactement aux limites de l'audible, puis 4 et 2. Ce qui veut dire que le La à 432 donne des Do dont les fréquences sont toutes des multiples de 2, ce qui est une anecdote numérologique qui suffit parfois à être un argument, on pourrait dire, gaillac, puisque on dit parfois que 8 Hz serait la fréquence du bourdonnement sismique, ce qui n'est pas du tout sûr, mais ce qui laisse André entendre qu'il y aurait quelque chose de cosmique dans 432, et alors que de complètement artificiel dans le La à 440. Mais reste à savoir, d'un point de vue harmonique, comment on découpe l'octave. Est-ce qu'on le découpe en 12, comme dans ce qu'on appelle le tempérament égal, ou est-ce qu'on le découpe avec d'autres nombres? Il y a le problème, par exemple, du coma. Le coma, c'est le neuvième de ton. Alors, quand on a un diapason à 440, le coma va correspondre à 6 Hz. Donc, le coma supérieur, le neuvième de ton au-dessus du La, sera à 446. Et pour vous dire la complexité de ces découpages, c'est que dans la théorie pythagoricienne, le coma et l'intervalle, alors c'est technique entre 7 octaves et 12 quintes pures consécutives, alors que dans la théorie d'un Italien du XVIe siècle qui s'appelait Zarlino, c'est l'intervalle entre 4 quintes pures consécutives et 2 octaves. Et à la fin du XVIIe siècle, on a un autre système harmonique de William Holder, tout aussi occidental pour le coup, qui définit le coma comme non pas le 9e de ton, mais la 53e partie d'une octave. Tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, ces découpages du ton ont fini par travailler les compositeurs. Et qu'on a le cas très notable d'un compositeur russe né en 1893 qui a étudié la composition au conservatoire de Saint-Pétersbourg et qui a émigré à Paris en 1920, Ivan Vichnegradsky, à qui on prête l'invention de ce qu'on appelle la musique microtonale, c'est-à-dire qu'on parle d'échelles infrachromatiques, voire ultrachromatiques, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec des gammes qui dépassent les seuls 12 sons de la gamme chromatique. Alors, le plus courant en matière de microtonalité, ce sont les partitions écrites pour des instruments accordés au quart de ton. Ça permet notamment d'écrire des partitions microtonales pour un instrument qui est quasi irréductiblement chromatique, qui est le piano. Et ce qu'on fait, c'est qu'on désaccorde un piano un quart de ton en dessous, et en jouant des deux en même temps, on peut obtenir des partitions au quart de ton. Alors voilà deux préludes de Vichnegradsky au quart de ton. Thank you. Alors, le quart de ton, c'est, on pourrait presque dire, le minimum que l'on puisse faire en termes d'ultra-chromatisme, puisque c'est un deuxième chromatisme. Et on fait maintenant des partitions, pour le coup, au 16e de ton. Il existe des œuvres aussi pour trompette au 19e de ton, pour sortir du seul découpage binaire du demi-ton. Et ce devenir physique du son, d'aller effectivement vers le son de plus en plus ondulatoire, on peut le commenter à différentes échelles. Parce qu'il y a effectivement la hauteur des sons sur laquelle le diapason nous a comme ça amené à focaliser. Mais à partir du moment où on questionne le son comme propagation d'ondes, on commence à l'envisager du point de vue visuel aussi bien. Puisqu'à force de rapprocher la musique et la physique, on comprend que le timbre est question de forme d'onde, que la densité de matière de l'instrument est aussi déterminant dans la couleur du son et sa richesse harmonique que le choix des notes. Et il y a une partition tout à fait emblématique de cette prise de conscience là, c'est Densité 21.5 de Edgar Varèse, qui est composé pour la flûte en 1636 et qui est composé pour une flûte en platine, la densité du platine étant proche de 21,5 grammes par centimètre cube, d'où le titre de la pièce de Varèse, Densité 21.5, qui est ici interprété par Laura Pou. Thank you. Alors, l'anecdote veut que Varèse a composé cette partition dans Cité 21.5 à la demande du flûtiste Georges Barrère, qui voulait une œuvre dédiée à étrenner sa flûte en platine. La densité du platine, comme je disais, était proche de 21,5 grammes par centimètre cube. En fait, l'anecdote n'est pas mythique, elle est même tout à fait réelle, mais comme c'est une anecdote, elle donne à l'événement une allure un peu occasionnelle, alors que le contexte de composition, à le regarder pour le coup plus largement, montre que la partition ne le relève pas d'un défi lancé par un interprète à un compositeur, mais plutôt d'une curiosité réelle du compositeur pour la palette sonore dont l'instrument est capable. Le Time Magazine du 2 décembre 1935 raconte une démonstration de la flûte en platine par Barrère aux experts des Bell Telephone Laboratories. Le 20 novembre 1935, Varèse avait assisté à cette rencontre, d'autant qu'il était lui-même depuis 1927 en contact avec Harvey Fletcher, qui était directeur de la recherche acoustique au Bell Telephone Laboratories, et Varèse était donc curieux des possibilités technologiques pour renouveler le domaine instrumental qui pouvait se mener au sein de ce laboratoire indépendamment de cette flûte en platine, puisque le musicologue Philippe Lalit évoque même une collaboration entre Varèse et Léon Thérémine pour construire deux instruments destinés pour la composition équatoriale. Alors on connaît surtout Léon Thérémine pour l'instrument auquel il a donné son nom. Et dès le début, il a effectivement travaillé avec une interprète qui est devenue comme la virtuose historique du Thérémine, qui s'appelle Clara Rockmore, qui était née en 1911 à Vilnius en Lituanie, qui était violoniste de formation, et elle semblait vouloir comme continuer à chercher le son du violon en jouant du Thérémine, ce qui donne quelque chose d'un peu étrange, puisqu'on a comme une expressivité violonistique avec des gestes qui sont sans contact physique, ou du moins seulement ondulatoire, avec l'instrument. Voici Clara Rockmore.
Hebrew Melody by Achron. Thank you.
Alors pour finir, je voudrais revenir sur cette affaire de l'hypothèse Gaïa qui serait pas loin du militantisme pour un diapason à 432. Pour ça, il faut repartir de la conférence internationale de Londres en 1953 qui fixe donc la fréquence à 440, hauteur à laquelle le diapason de référence avait déjà été établi en fait en 1939 par la Fédération internationale des associations nationales de standardisation. Et donc même sur ces questions-là, on a des théories du complot, et une s'est formalisée autour du la de 440 à partir du fait qu'il était aussi la hauteur préconisée par le ministre de la propagande nazie Goebbels. Et pour lui préférer le diapason 432 à titre de développement de cette théorie du complot qui voudrait donner donc une dimension nazie au 440, on a des arguments plus ou moins millénaristes qui se trouvent quelquefois donc avancés en faveur de ce 432. Le nombre 432 serait considéré comme sacré et on tient des mensurations de la majorité des temples sur la planète à témoin. Et on peut lire par exemple sur hollandmusic.com, le côté de la grande pyramide d'Égypte serait de 432 unités terrestres au niveau de l'eau qui inondait les pieds de la pyramide. Ou encore, la grande pyramide du soleil du complexe Toltec de Teotihuacan au Mexique mesure sur toute la périphérie de sa base 864 unités de mesure Teotihuacan standard. 864 est exactement le double de 432. Selon le mythe, cette mesure leur a été transmise par les dieux des étoiles. Dans le calendrier maya, on retrouve aussi le chiffre 432. Le cycle Khatun comprend 7200 jours, où l'on retrouve à nouveau le 72, qui est le tiers de 432, ou même dans le calendrier des Védas, on a un grand cycle de 432 000 années. Et à force de prêter comme ça au 432 une valeur ancestrale, on trouve même dans la musique accordée à 432 une ressource méditative. Et sur certains sites tels que Source de Yoga, on trouve le témoignage de Yannick, pour qui le La à 432 donne le Sol à 384, qui serait la fréquence de résonance de l'élément oxygène, tandis que le Do à 256 est justement une fréquence de résonance qui active le système chlorophyllien des plantes. Et donc, on parle à propos du 432 de chakra tones. Et on peut, comme ça, trouver sur YouTube l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven dans une version mise en boucle, où on reprend la version de l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui a été enregistrée à un diapason à 446, mais qu'on remixe exactement 14 Hz plus bas pour que tout se rééquilibre à partir d'un La à 432. Et il se trouve que pour mesurer les mouvements de la Terre, les chercheurs ont effectivement placé en profondeur à différents endroits du globe des sismomètres qui mesurent les mouvements du sol, ce qui permet de repérer et détecter les tremblements de terre partout dans le monde. Et quand il n'y a pas de tremblement de terre, il y a un mouvement qui produit ce que les chercheurs de l'Institut de physique du globe à Paris appellent le bourdonnement sismique. Et le sismologue Jean-Paul Montagnier explique que, pour autant que notre oreille humaine effectivement entend en gros, enfin quand elle les très performante entre 20 et 20 000 Hz, que, en revanche, les ondes produites par la Terre sont de l'ordre des millihertz, des ondes 1 million de fois plus faibles que les ondes acoustiques, c'est-à-dire des ondes audibles par... non audibles par les oreilles de notre espèce, et donc des débats qui n'auraient pas forcément lieu d'intervenir dans nos histoires de diapason. C'est-à-dire, pour défendre encore la musique accordée à 432, le site Phonothérapie relate une étude scientifique réalisée aux Pays-Bas qui démontre que plus de 76% des gens dans leur test ont perçu la musique à 432 comme plus belle par rapport à la musique accordée à 440. Alors on va écouter simplement 2-3 minutes de Beethoven à 432 avec ce réaccordage informatique, avec un extrait de la lettre à Élise pour terminer. Pardon pour la coupe un peu sauvage, mais en même temps, c'est une expérience dans laquelle on n'est pas censé écouter tant l'œuvre que le fait qu'elle est accordée à 432, puisque ça déplace un peu les critères d'écoute. Alors, à propos de critères d'écoute qui se déplacent, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine conférence le 2 février, en compagnie du pianiste Nicolas Horvat, qui jouera effectivement des partitions extraites de traités pédagogiques. On traitera de tout le problème des œuvres écrites pour être techniquement efficace pour se muscler les doigts. On parlera du dactylion et ainsi de suite. Et donc, merci.